de ceux qui nous écoutent, c'est de savoir si ça vous intéresse de faire chaque fois un thème un peu plus en profondeur. Alors, c'est vrai que le vent, eh bien, il a déjà un nom assez curieux, c'est Ekatl, mais moi je l'appelle aussi Quetzalcoatl à cause de cette divinité qu'on va étudier. Et puis, Ekatl, c'est quand même le dieu du vent au sens le plus étrange. C'est un visage avec un masque du dieu vent. Alors, serpent à plumes précieuses. Ça, c'est un nom que vous aimez, Quetzalcoatl.
Ça, oui.
Eh bien, c'est le protecteur de ce jour, vent. Et Ekatl, dont je vais parler, c'est un serpent aux mâchoires. Alors, essayez d'imaginer des mâchoires disproportionnées, avec un corps entièrement recouvert de plumes. C'est un paradisier, c'est les plumes d'un paradisier des forêts pluviales des Chiapas mexicains. C'est dans le sud, et de l'Alta Verapaz guatémaltèque. Et la queue du Quetzal n'a que deux pennes. Vous vous rappelez, on en a parlé de ces deux pennes d'un vert bleu irisé qui mesure entre 60 et 80 cm. Alors, ces plumes sont peut-être les plus précieuses. J'aime bien le terme de précieux. Il est vraiment très précolombien. Des plumes précieuses de la plumasserie précolombienne parce qu'elles sont le symbole même de la fécondité d'abord, et puis elles permettent aux serpents de se mouvoir dans l'espace, de voler. Or, il monte jusqu'au sommet du ciel, il descend vers l'horizon, il plonge dans l'univers souterrain. C'est un univers sombre et aquatique, curieusement. C'est une eau primordiale sombre et noire. Et il est naturellement Vénus, qui après son voyage dans l'inframonde, ressurgit à l'horizon. Et vous savez que quand il plonge à l'ouest, eh bien, il se nomme justement, je le disais tout à l'heure à notre amie Claudia. Eh bien, il se nomme l'homme à tête de chien ou homme à tête de chien. Alors, c'est le fameux Xolotl, que j'avais dans son signe de Vénus. Après son parcours sur terrain, eh bien, il réapparaît à l'est et devient l'étoile du matin. Alors là, c'est des noms que j'adore parce qu'ils sont accouchés dehors. Tlawitzcalpantecutli, vous aimez ça. Alors, Tlawitzcalpantecutli, ce n'est pas un mot qu'on prononce tous les jours, mais on le nomme Monseigneur de l'Aube. Et l'homme à la tête de chien, eh bien, sont tous les deux des avatars de Vénus. Alors, c'est là où c'est compliqué chez les précolombiens, parce que ce Vénus Quetzalcoatl, tout comme Vent et Ekatl, ben, tout ça, ce sont des avatars. Alors, il porte, lorsqu'il est à la fois Quetzalcoatl ou le dieu du vent, là, il y a vraiment quelque chose de très commun. Il n'a pas du tout la tête de chien de tout à l'heure ou cette allure de Tlawitzcalpantecutli qui est Monseigneur de l'Aube. Non, non. Le vrai Quetzalcoatl, le vrai dieu du vent et Ekatl, il porte un masque buccal en forme de bec d'oiseau. C'est un bec d'oiseau aquatique assez long, comme ceci, qui est surmonté d'un nez assez curieux. Je dirais qu'il est cubique, comme ça. Alors, ça fait un masque qui est peint en rouge et qui est terminé par un front qui est... Allez-y, là, Alexandre, je vous vois plisser, là. Aïe. Un front plissé. Et puis, le bec, il est semi-ouvert et il laisse voir une seule dent, une dent unique. C'est les dents uniques des vieillards chez les précolombiens. Tous les vieillards n'ont qu'une dent.
Comme toutes les images.
Vous vous rappelez le vieux
oui.
dieu,
hein, oui,
on en a
oui.
parlé. Alors, ces divinités, enfin, primordiales, c'est les premières divinités nées du dieu créateur, qui est Tonacateutli, dont on a parlé la semaine passée à propos de ce protecteur du caïman, Cipactli. Et ce sont les anciennes, enfin, je dirais les plus anciennes du panthéon mexica. Alors, il y a d'abord celui au miroir fumant d'obsidienne, Texcalcipoca, dont on va aussi beaucoup parler plus tard. Et il apparaît en premier sous une forme assez curieuse. Ça, c'est assez indien d'avoir des trilogies ou des multiplicités de dieux. Alors, il y a un Texcalcipoca rouge, ensuite il y en a un noir, ensuite il y en a un bleu. Et puis arrive enfin Quetzalcoatl, notre serpent à plumes précieuses. Alors, il est conscient naturellement de l'énergie qu'il a déjà à l'intérieur de lui, puisqu'il a trois avatars d'un coup. Il est à la fois Vénus normale, Vénus qui descend sous terre, la Vénus qui remonte à l'est, et il est en même temps ce dieu du vent. Alors, ces deux dieux, ces deux entités divines, eh bien, elles sont chargées de séparer le ciel et la terre. Vous vous rappelez qu'on avait créé le ciel et la terre avec un caïman qui arrivait sur l'eau et qui, avec ses pics, formait les montagnes. Eh bien là, on va carrément déchirer. Je vous avais dit qu'il n'y avait qu'une mandibule au fameux caïman qui est le signe aztèque. Eh bien, c'est justement parce qu'on a déchiré la gueule de ce monstre saurien qui flottait sur la surface de ces eaux que j'ai appelées primordiales la dernière fois. Et on va partager son corps dans toute la longueur. Donc, le fameux caïman Cipactli va devenir à la fois le ciel dans sa partie supérieure et la terre dans sa partie inférieure. Donc, serpent à plumes et miroir fumant vont créer toutes les autres divinités qui vont peupler le ciel et l'inframonde. Et cette fin de quatrième soleil, parce qu'on est dans le cinquième aujourd'hui, et bien ce quatrième soleil qui est tombé sur la terre a donc été relevé par eux, et ils vont tracer alors dans le ciel ce que l'on croit encore, enfin qu'on voit apparaître, ce chemin étrange qu'est là, la Voie lactée. Et les exploits de Quetzalcoatl ne vont pas s'arrêter là, parce que selon les Mexicas, enfin les Aztèques, ils vont donner également vie aux hommes qui habitent sur la surface de ce fameux caïman terre, comme je l'ai appelé. Alors, comment est-ce qu'il s'y est pris? Ben, la tâche pour créer le monde, elle a été faite comme une sorte de genèse que je vais appeler cyclique. Elle est très complexe. Alors, antérieurement, il y avait déjà eu quatre époques, hein, quatre ères au cours desquelles avait péri plusieurs fois l'humanité lors d'immenses catastrophes, des cataclysmes cosmiques. Hein. Alors, les os, les ossements de ceux qui étaient morts après la dernière création vont rester dans l'inframonde, c'est-à-dire sous terre, si vous voulez. Et le dieu de ce lieu infernal qu'on appelle Mictlantecuhtli, le dieu de la mort, eh bien, il considérait que c'était pour lui son trésor. Il voulait absolument conserver ses ossements et c'est pourquoi Quetzalcoatl a dû faire une expédition absolument audacieuse pour essayer de récupérer ses os en descendant dans le monde souterrain. Alors c'est toute une histoire parce que le dieu de la mort lui a tendu des pièges absolument impossibles et pourtant il était suffisamment astucieux, il a réussi et il a fini par retrouver et voler ses os. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il les a ramenés en surface et là, il les a broyés. Vous savez que les Indiens, les Indiennes plutôt, ont ce qu'on appelle un métaté. Et broyer quelque chose pour en faire une poudre, ça se fait sur. Il faut une main, comme ça, oui. Vous tenez et vous écrasez ça sur une pierre basaltique. Hein. Donc, c'est sur la pierre à moudre qu'il va petit à petit les broyer et il va les réanimer. C'est-à-dire pour réanimer ses os. Il va se piquer le sexe avec une pointe affilée. Mmh. En général, c'est une pointe d'os, par exemple. Et il va laisser couler son sang. Et on dit que sa semence s'est mélangée à ce sang sur cette poudre farineuse. Et on va transformer petit à petit, grâce à une façon magique, il va transformer tout ça en pâte fertile et vivante. Mmh. Et les humains vont être formés de cette masse. Une fois créée, il faudra bien qu'ils cherchent quelque chose à manger. Alors ça, c'est l'étape suivante qui est sympathique. Et Quetzalcoatl, il est génial parce qu'il est toujours là. Hein, vous avez vu, il fait pratiquement tout le boulot. On pourrait passer la soirée dans des mythes. Et là, eux, ils cherchent leur nourriture en vain sur toute la surface de la Terre. Et c'est lui qui va justement, Quetzalcoatl, qui va trouver une nouvelle solution. Ouais. Alors, il a vu une petite fourmi rouge. Vous avez déjà vu ces fourmis rouges qui piquent.
Oui.
Elle était chargée d'un énorme grain de maïs. Hein, et il la voit comme
aussi
ça.
Gros
et,
qu'elle.
Ben oui, et il se transforme en fourmi noire. Ouais. Et dès qu'il est en fourmi noire, il la suit. Hein, la petite colorée, là. Oui. Et il va jusqu'au lieu où était cachée la semence sacrée. Alors, là, il y a toute une mythologie du lieu où était caché le maïs. Hein, et il va s'empresser de voler quelques grains. Et en revenant avec ses céréales, il va permettre ainsi à tout Amérindien de découvrir cette plante qui va devenir la plus indispensable de toute l'Amérique. Hein. Donc, c'est Quetzalcoatl qui va offrir à la fois la vie aux hommes et ensuite leur nourriture, c'est-à-dire le maïs. Oui. Alors, bien sûr qu'on va la semer sur la peau un peu squameuse et étrange de notre caïman. Et depuis lors, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que les semailles, juste après les semailles, eh bien, on fait des petits cônes de terre autour de la plante pour la protéger. Mmh. On fait des petites pyramides comme ça. Et quand ils poussent, alors on revient encore remettre la terre pour protéger vraiment le c'est des fûts assez longs, hein, ces branches de maïs. Enfin, ces plantes. Et ça rappelle un peu les pics du dos du saurien. On a l'impression que l'Indien a repris la thématique. Et puis, on met quelques petits grains supplémentaires de haricots. On met encore des grains de courge. Alors, les courges, elles traînent par terre. Les haricots, ils vont tourner autour du maïs. Et tout cela va permettre la création de ce que j'appelle une trilogie nutritionnelle. Hein. C'est les trois choses qui permettent de nourrir l'Indien. Et à partir du jour des semailles, eh bien, on attend la récolte. Hein. Ça paraît une lapalissade absolue. Et il fallait simplement se demander... comment on allait faire pour découper le temps? Ah, voilà qu'on arrive à quelque chose d'intéressant. Mmh. Donc, il fallait codifier en fonction de l'agriculture. Il fallait s'occuper de la dualité des saisons qui sont marquées dans le Mexique central. Hein, oui. Pas du tout dans les tropiques. Oui. On est dans un climat où il fait presque aussi froid que chez nous. On est à 2300 mètres. Et puis, il y avait l'observation des mouvements des astres qui étaient nouvellement créés. Là, il y avait Tonantiu qui est le soleil. Il y avait Quetzalcoatl dont on a parlé pour Vénus. Et puis, il y avait eu cette naissance de l'homme. Donc, tout avait changé. Hein. Mmh. Alors, Quetzalcoatl, il va prendre en compte le temps de conception. Là, je parle vraiment de l'humain, hein, de gestation de celui qui allait devenir vraiment... Moi, j'appellerais l'homme une sorte de source d'énergie universelle. Et c'est lui qui va permettre en fait de redonner la vie en façonnant sa chair, comme on l'a vu. Mais il était temps d'inventer, de mettre en mouvement, je dirais, la roue de ce qu'on appelle le tonalpoali. Le tonalpoali, c'est ce calendrier que j'utilise, hein, ce calendrier divinatoire de 260 jours qui correspond exactement à la durée de la gestation.
Le quoi?
Le tonalpoali.
D'accord.
Alors ça, c'est la longueur, c'est la durée de la gestation de tout être humain, hein, puisque c'est 260 jours.
Oui, ouais.
C'est-à-dire qu'il y avait 20 signes, ça vous le savez, il y a 13 chiffres qui sont multipliés et qui forment cette roue de 260 solutions différentes. Hein. Les chiffres et les signes découvrant, si vous voulez, des auspices ou un mélange d'auspices conjoints à ce nouveau binôme qu'on est en train de former. Alors, selon l'importance et les énergies qui sont en fait... C'est presque une exigence hein, dans cette combinaison journalière. Eh bien, il est fréquent que les prêtres, je parle des Aztèques bien sûr, les militaires, mais aussi les gens du peuple, voient dans l'obligation pour eux, c'était presque... Oui, c'était une tâche de perpétuer des autosacrifices exactement dans la façon d'imiter Quetzalcoatl. C'est-à-dire les anciens Mexicains, ils se piquaient la langue, ils se piquaient les oreilles, on se piquait les mollets avec des épines d'agave et des os, comme je les avais tout à l'heure, ces os effilés.
Oui. Hein.
Et on laissait s'écouler peu à peu ce sang, tout simplement pour l'offrir aux dieux. Alors c'est donc bien Quetzalcoatl qui va enseigner ce que j'appelle la pénitence pour les humains. Mmh. Et quand il est représenté dans les manuscrits pictographiques, et là je suis en train presque de vous faire le dessin, on le voit par exemple dans le Codex Borgia, qu'il porte toujours dans sa main gauche, et souvent même dans sa coiffure, et c'est piqué comme vous savez, comme vous mettez quelque chose dans un chignon, la même chose. Il porte vraiment une pointe d'os ou des épines de maguey, ces instruments qui sont indispensables pour le sacrifice humain. Sur le plan auto-sacrifice, hein, c'est pas vraiment mortel puisqu'en fait il suffit de lâcher un peu de sang. Alors il y a d'autres détails intéressants sur l'image que j'étais en train d'observer, c'est qu'on voit par exemple une bourse à copal. Je vous ai parlé la semaine dernière du copal, vous savez ce fameux pomme des Mayas, cet encens qui permet effectivement, lorsque vous la tenez comme ça dans la main gauche, de montrer que vous êtes bien le protecteur des prêtres et des chamans. Mm-hmm. Voilà qu'on arrive dans le monde qui nous occupe. Hein. C'est-à-dire qu'il y a même une décoration qui est piquée dans sa coiffure, un peu comme un peigne. Or, ça représente la planète Vénus avec des grands... il y a des énormes rayons rouges, comme ça. C'est la planète rouge. Hein, pour eux. Et elle est entourée avec des petits cercles rouges et blancs qui représentent toutes les étoiles mineures qu'on voit dans le ciel. Hein. Alors, Vénus, c'est donc, je dirais, par sa course dans l'espace, c'est le moteur du troisième calendrier, hein, celui que j'ai utilisé tout à l'heure pour Claudia, où j'ai fait un décompte de 584 jours par rapport à sa naissance pour voir exactement ce qu'elle était. Donc j'étais recherché aux alentours des années 70 certains détails qui sont revenus sur l'année 68. Et ce compute-là, eh bien, il tourne comme l'autre calcul du temps qui est le calendrier solaire de 365 jours, et puis celui de 260, le tonal Poilly, quand vous aimez bien le nom. Alors, même le jour et la nuit, c'est-à-dire ce que j'appellerais le diurne et le nocturne, tout ça dépendait de Quetzalcoatl. Donc Vénus va veiller vraiment d'abord au temps prénatal, c'est-à-dire à la natalité même de l'homme. Mais ce qui est intéressant, c'est que, regardez le dessin, au centre il y a un chapeau. Hein, il porte un chapeau conique très étrange qui est noir et rouge, la couleur de la nuit et du jour. Et si vous regardez ce noir et ce rouge, eh bien, il porte toujours la divinité exactement au centre. C'est-à-dire que la planète est placée, la planète du soir et la planète du matin, est une seule et même planète, puisque du côté rouge, elle est dans l'obscurité, du côté noir, elle est dans la lumière. Ouais. C'est l'inverse, mais vous avez compris ça. Bon. Et la première à s'allumer dans le ciel vespéral, c'est donc cette même Vénus, la dernière à s'éteindre devant l'astre matinal, devant Tonantiu de tout à l'heure, le soleil, c'est toujours Vénus. Donc, Vénus, elle va présider vraiment, qu'est-ce que je peux vous dire ? On en parle souvent hein, dans l'émission, au sort des fœtus dans l'obscurité de la matrice. Hein, et en même temps, à la naissance lumineuse du nouveau-né. Donc on sent bien hein, ce rouge et ce noir. Alors excusez-moi, le rouge, vous avez compris, c'est la lumière. Le noir, c'est l'obscurité.
Oui.
Et Akatl, eh bien, il va offrir également, puisqu'il est le dieu du vent, le premier souffle. La première ventilation du bébé. Hein.
D'accord.
C'est intéressant de voir que tout est là, y compris depuis le départ. Hein. Il ne faut pas oublier que le Tonal Poali est le seul calendrier au monde qui reconnaît vraiment l'importance de ce que j'appelle une conception et une gestation humaine. Hein. C'est-à-dire, ça permet ainsi de deviner les influences, je dirais, physiques, mais aussi psychiques que vous avez vécues, qu'on va vivre dans le ventre d'une mère. Hein. Et cette période est fréquemment revécue à l'occasion d'introspection chamanique. Et là, on rentre dans le domaine le plus intéressant de ce qu'on fait. Hein. C'est-à-dire la mémoire cellulaire qui est activée par les sens, et puis les états d'âme qui sont, je dirais, revécus et qui permettent le retour à cette période qui est incontestablement chargée d'événements, de sensations, qui sont transmises souvent par la... par la mère elle-même,
hein,
par son entourage aussi, ouais, hein, ouais. durant toute la grossesse.
C'est incroyable hein, quand même.
Ben, c'est particulièrement le vent et Akatl qui va permettre de retrouver le chemin de cette mémoire. Donc en effet, les chamans utilisaient les énergies du vent. Mm-hmm. Ça, c'est la première énergie qu'ils utilisaient. Alors leurs thèmes astrologiques sont souvent liés au dieu du vent. J'en parle souvent par rapport aux auditeurs en disant qu'ils ont des dons, etc. Et qui peuvent être médecins, qui peuvent être... Vous vous rappelez que le vent intervient souvent. Ouais. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi le chiffre 9 hein, qui est attribué au même dieu. Il y a aussi le jaguar qui est le maître des 9 mondes souterrains. Alors, j'en fais partie, c'est vrai, mais le signe de la mort ou le 6 qu'elle protège comme régente, eh bien, c'est ce qui correspond également aux 9 degrés de l'inframonde qui sont traversés par tous les défunts qui vont vraiment dans ce domaine des chamans et des lecteurs de destin. C'est intéressant parce que l'interprétation des influences du calendrier, eh bien, elles dépendent uniquement de ces prêtres spécialisés. Hein. Ils ont un nom très spécial, on les appelle les Tonalpuake. Et les Tonalpuake, c'est vraiment ceux qui comptent, c'est ce que je disais, les comptables des signes, hein, ceux qui comptent les signes.
Oui.
C'est une forme de, qu'est-ce que j'appellerais, c'est une corporation finalement.
Mm-hmm.
Eh bien, elle est extrêmement fermée. Et elle était à l'époque indienne, à l'époque aztèque, elle était exclusivement masculine. Ça change un peu maintenant dans le Mexique moderne. Il y a certaines communautés indiennes où les femmes ont pris des pouvoirs, et particulièrement celles qui s'occupent des champignons hallucinogènes. Oui. C'est là où on les retrouve le plus. On en a parlé aussi.
Mm-hmm.
Et ces comptables des signes, eh bien, ils choisissaient leur successeur. Oui. Parce qu'on cherche un successeur spirituel, comme on le fait encore aujourd'hui avec les chamans des communautés indiennes.
Mm-hmm.
C'est assez curieux de voir aussi qu'ils pouvaient choisir à l'intérieur ou à l'extérieur de leur famille.
Oui, j'allais vous demander, c'est pas forcément toujours
pas
lié à la famille.
Pas du tout.
Ça n'a rien à voir.
Mais c'est toujours en fonction des thèmes astrologiques.
Oui.
Ça, c'est très intéressant. Hein. Donc, ça n'a rien à voir avec les autres praticiens de la divination. Vous savez qu'il y en a qui, je ne sais pas, chez les Indiens, on procède avec des... Il y a par exemple des jets de graines. Hein. On jette des graines un peu comme on jetterait des dés et puis on lit l'avenir. Il y a des manipulations de cordelettes pour voir l'avenir aussi. Et puis, on observe souvent aussi des surfaces d'un liquide qui est contenu dans une coupe. Il y a même des cristaux qui peuvent être étudiés. Enfin, j'ai vu énormément de solutions, un peu comme chez nous, il y aurait le tarot, les cartes, etc., la boule de cristal. Il y a plein de solutions dans le chamanisme. Mais pour exercer, eh bien, le Tonalpuaki consulte toujours... à l'époque précolombienne en tout cas, ce qu'on appelle le Tonalamatl. Alors, vous avez compris, c'était le livre des destins.
Oui.
C'est ce que je fais avec mes tabelles. Et les codex principaux qui nous sont parvenus, qui sont des livres des destins, bien, moi j'ai étudié spécialement ce qu'on appelle le Borgia, il y a le Borbonicus, il y a le codex Aubin, il y a le Teleriano Remensi, si pour des noms impossibles, mais qui sont souvent les noms des gens qui les ont retrouvés. Hein.
Ouais.
Alors, il y en a en Italie, il y en a un peu partout dans le monde. Or, l'ensemble de ces influences qui pèsent sur le caractère d'un jour, comme aujourd'hui, si vous cherchez, eh bien, ça focalise vraiment ce que j'appelle un tonali. Vous entendez qu'il y a toujours les mêmes termes qui reviennent, hein, c'est un peu les mêmes bases grammaticales. Ouais. Le tonali, c'est un faisceau de signes, c'est une particule, je dirais, vitale, individuelle, qui est donnée, qui est émanante. Oui, elle est émanante, elle vient directement de l'énergie primordiale, hein, de ce que j'appelle l'énergie cosmique. Alors, il y a des auteurs extrêmement curieux qui ont parlé de tout cela, et particulièrement Carlos Montes, qui rapprochait l'étymologie de tonali de celle du soleil. Il pensait que Tonatiu était certainement l'étincelle énergétique la plus forte de l'univers connu. Hein.
Mm-hmm.
Donc, cette espèce de... Comment est-ce qu'il faut vous dire? L'homme naît en recevant cette âme, comme c'était une âme énergétique, et elle s'exprime d'abord par son thème, et puis ensuite, bien sûr, par son destin. Hein. Donc, les calendriers permettent d'entrer dans un vrai système de prédestination que le porteur de destin peut lui-même transformer, il peut le retrouver, il peut le reconnaître. Ça, c'est tout le travail qu'on fait sur un thème. Hein. Avec l'aide du chaman que j'ai appelé le compteur des signes ou le comptable des signes, eh bien, en fonction du signe de conception et de sa date de naissance, de la trézaine qui la préside, et puis, vous le savez, le nouveau-né est affecté d'un certain nombre de... Qu'est-ce que je vais dire, de traits de caractère.
Oui.
On lui donne des énergies qui le prédisposent ou qui le déterminent.
Mmh.
Et à lui, eh bien, aux démarches faites en compagnie du chaman, on va essayer de lui demander d'apporter, je dirais, des sortes de corrections, des correctifs à ce qui paraît arbitraire, à ce qui paraît arbitraire dans l'idée du destin. Hein. C'est-à-dire qu'on peut corriger. Or, l'introspection directe, elle est prise, vous le savez aussi, parfois par des... On en a parlé la semaine dernière, par des drogues hallucinatoires. Oui. Hein, et c'était des méthodes principales qui permettent de reconnaître sa destinée et puis surtout de la modifier. Et alors, il y a une recherche qui est... Comment est-ce que je vais vous dire? Elle est à la fois somatologique, pour voir un peu comment on fonctionne. Et il y a aussi, naturellement, un côté... psychologique, incontestablement, mais il y a un résultat qui était impressionnant sur la santé, sur le confort de vie, hein, qui est découvert par le sujet. C'est-à-dire, grâce à ce type d'introspection, je dirais que c'est pourquoi les chiffres et les signes sont les aides, et c'est vraiment les garants, je dirais que c'est une sorte d'ordonnance pour un chaman. Hein. Ouais, ouais. Ils aident à chacun à retrouver ses énergies, son équilibre psychique et physique, comme je l'évoquais, et ces séances, eh bien, elles suivent la lecture du thème, et elles sont présidées systématiquement par le dieu du vent. C'est le seul qui est présent vraiment. Et Akatl, il est aussi associé à... Il y a d'autres dieux qui peuvent être là. Il y a le prince des fleurs qu'on trouve souvent dans le calendrier. Il y a la déesse de l'ivresse, Mayawel, dont je parle souvent, qui permet effectivement de donner cette bière étrange qu'est le pulque. Et puis, il y a des jours précis. Hein. Alors, je vous parle souvent du pétard allumé numéro 5. Hein. Il y a le 6 qui est avec le dieu de la mort. Il y a le 9 que j'ai évoqué tout à l'heure avec le vent. Il y a le 10 que j'ai donné pour notre amie Claudia avec la clairvoyance. Et puis, si je prends les signes, alors bien sûr qu'il y a le vent, c'est normal, mais il y a aussi la maison. Ce côté matrice, ce côté femme, intérieure, le chien, par exemple, qui permet d'aller en sous-sol et d'y voir un peu plus clair. La mort, l'herbe sèche qui permet, hein, qui a un petit peu côté hallucinogène. Il y a le jaguar que j'ai évoqué tout à l'heure. Ouais. Il y a la fleur, bien sûr, qui est aussi assez pétard allumé et sympathique. Donc tout ça est extrêmement favorable pour reconnaître les événements qui ont changé le cours d'une vie. Donc il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Hein. Vous voyez que tout ce qui tourne autour de ce vent, cette mémoire est retrouvée vraiment en accueillant cette réalité d'une difficulté qui est vécue d'abord dans l'actualité. Le sujet, on en parle ce soir quand les gens nous posent des questions. Donc, c'est dans le présent de l'existence. Et puis, par l'introspection et la découverte virtuelle d'une matière...
Il peut retourner dans le passé.
Bah oui, ça représente la difficulté, l'obstacle, la douleur, l'état d'âme, ou je dirais même l'être qui s'oppose au flux naturel des énergies. Bah, le sujet, il va véritablement matérialiser sa problématique en lui donnant, qu'est-ce que je vais vous dire, une forme, une entité, une masse. Et cette matière, elle va prendre alors... naturellement, mais virtuellement, ça vous comprenez, Alexandra, vous l'avez vécu. On va découvrir une température, ça peut être chaud, ça peut être froid, ça peut être tiède, elle pourrait être solide, molle, là vous avez raison, liquide ou gazeuse. Alors, ça paraît étrange d'aller chercher cela, mais on va voir si elle est élastique, si elle est épaisse, si elle est fluide, si elle est humide, la couleur ou si elle est sèche, selon le ressenti. Et quand on aura justement une couleur, comme vous le disiez, ou même une distance, une proportion, eh bien c'est là qu'il sera alors temps de commencer la reconnaissance.
Oui.
Par une odeur.
Quelle est son odeur?
Mais oui, par exemple, ou un son, un goût. Là, on a l'impression qu'on rentre dans quelque chose d'un peu halluciné.
Et à quoi ça vous ramène?
Ben oui, parce que lorsque c'est découvert à l'intérieur de la matière visualisée que vous aurez créée, le sujet, ben, il peut, c'est possible pour vous, Alexandra, de retourner et de retrouver un instantané de son passé, de revivre les états d'âme, les ressentis physiques, les expériences antérieures qui ont été, je sais pas, elles sont enfouies, elles sont oubliées, mais elles seront, c'est juste là le moment de les revivre, et chacun va retrouver les états d'âme, on va pouvoir travailler sur les respirations, les expériences qui n'ont pas été gérées au moment des événements, et après une reconnaissance, vous allez retrouver des énergies. Et je dirais que ces énergies, elles sont vitales. C'est la première fois que je vous en parle comme ça, mais il y a quelque chose d'innocent qui précède juste le drame. Hein. C'est-à-dire, on arrive juste avant l'événement qui n'a jamais été accepté par le sujet. Hein? Alors, ce qui est fréquent, c'est que comme les chamans font revivre tout ça, eh bien, on arrive à retrouver, par exemple, qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple, l'heure d'une naissance difficile, on va pouvoir... découvrir une agression, un drame affectif. On en parlait pour Claudia tout à l'heure en disant qu'il y avait quelque chose au départ qui me chatouillait. Il y a même, des fois, on va au-delà de la naissance où un incident, un événement a été parfaitement enregistré par le petit fœtus en formation dont je parlais tout à l'heure. Donc, il est fréquent. Alors, dans l'état de Oaxaca, là, je parlais la semaine dernière de la Sierra Mixteca, de trouver des chamans, des lecteurs de destin, ces comptables des signes qui utilisent en parallèle les champignons que j'évoquais tout à l'heure, les champignons hallucinogènes. Alors, ce sont des jalons divins, ben oui, parce que ce sont vraiment des dieux pour eux, qui permettent d'accélérer en fait les visions. C'est uniquement ça, hein. Et de trouver le contact entre le sujet et le chaman. C'est-à-dire que ça permet d'aller plus avant dans l'introspection, dans le soin finalement, dans la transformation, dans la reconnaissance des énergies, du bien-être même.
Hein. On peut le faire sans aussi. Hein.
Oui, tout à fait, parce que la santé de chacun, de ceux qui demandent, elle dépend souvent plus du système d'introspection que de la prise de ces champignons. Mais il y a aussi le peyote, hein. On en a parlé. Ce peyote, le peyote qui est le cactus sacré hallucinogène, alors lui, il est utilisé partout dans le nord et l'ouest du Mexique, particulièrement chez les Indiens, les communautés Huicholes et Tarahumaras, les Tarahumaras qui ont beaucoup été étudiés par Michaud, le poète Michaud, qui a pris certainement aussi du peyote pour faire ses poèmes. Et il va avoir même, ça peut avoir en même temps un usage thérapeutique. Hein, c'est-à-dire que les guérisseurs, ils utilisent leurs dons et l'apprentissage qui est dû aux visions par les plantes pour imiter ces vertus de Vénus. Vénus est toujours présente. À chaque fois que j'ai fait des rituels, par exemple pour le peyote, j'ai toujours Vénus, j'ai toujours le dieu du vent. Ouais. Souvent, on me le colle sur la joue en faisant des petits dessins. C'est assez impressionnant. On sait très bien qu'on retrouve encore dans les mythes de ces quatre soleils. Je parlais de la fin de la quatrième ère qui précède la nôtre, l'ère du soleil devant, justement. Mm-hmm. Eh bien, la Terre avait été balayée par un immense ouragan qui avait détruit toute l'humanité. Et c'est là justement qu'on avait perdu les os des ancêtres. Hein. Oui, vous rappelez que Vénus va les rechercher. Et cette tempête, elle avait été soufflée par Hécatl un jour, quatre vents. Donc même les jours sont importants. On arrive à donner certains cataclysmes certains jours. Hein. Quand je lis le calendrier, je dis « Ouh là là, il va se passer quelque chose », etc. Et là, c'est un vent qui était en réalité un vent... Oh, comment est-ce que je vais vous le nommer ? C'est un vent chamanique, en fait. C'est un vent... un vent magique. Alors, il va transformer les hommes en singes. Mmh. Tous les hommes vont être transformés en singes. Et depuis, après la nouvelle création de Quetzalcoatl et de la magie d'Eacatl, eh bien, tous ceux qui sont nés sous le signe vent ou le signe neuf vont posséder cette faculté, justement, à cause de cette histoire de singes, de pouvoir se transformer. C'est-à-dire d'endosser l'apparence d'autrui, d'un animal totem, son nawal. Et les chamans ont le pouvoir de se glisser dans la peau de leurs patients, dans leurs rêves, dans les visions, lors de ces séances introspectives ou hallucinogènes. Alors, ce pouvoir de métamorphose, eh bien, il est encore extrêmement présent dans les communautés indiennes qui sont régies par tout ce système. C'est vraiment une sorte de je dirais qu'il y a presque une économie chamanique, c'est impressionnant. Et ces hommes de pouvoir, eh bien, ils sont incroyablement redoutés. Hein.
Oui.
On n'imagine pas à quel point, selon les tenants négatifs, par exemple, d'un thème, les facultés peuvent être utilisées à mauvais escient. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des usagers de la magie noire. Hein. Il y a des gens qui changent du blanc au noir et qui commencent à utiliser la sorcellerie. Et ça, c'est impressionnant. Hein. Parce que quand vous endossez l'apparence de quelqu'un d'autre sous la forme animale, grâce au pouvoir du vent, eh bien, le sorcier peut alors jeter des sorts, il peut bloquer des énergies, s'introduire dans le sommeil d'autrui. Et aujourd'hui encore, si un homme ou une femme sont identifiés comme envoûteurs, eh bien, ils doivent être punis pour le moins en leur rasant leurs cheveux. Moi, je dis raser les cheveux pour vous faire plaisir, hein, parce que c'est déjà très, très impressionnant quand un Indien est rasé. Mais je connais énormément de communautés où il y a naturellement des assassinats de sorciers négatifs.
Ce que vous racontiez la semaine passée. Hein.
Oui, c'est bien là qu'on dirait, on comprend que c'est dans les cheveux qu'il y a ce côté du pouvoir. Hein. Mm-hmm. Et c'est d'ailleurs peut-être pourquoi, quand on voit, il y a des images où on voit les sacrificateurs aztèques. Hein.
Vous avez dit, dans les cheveux, il y a cette image du pouvoir.
Ah oui, incontestablement. Ça, c'est vraiment l'endroit de pouvoir absolu. Et les sacrificateurs aztèques qui avaient pour tâche d'exécuter les prisonniers et les sujets qui avaient été choisis pour être immolés par... Moi, j'appelle ça par cardiectomie, c'est quand on enlève le cœur. Hein. Ils étaient porteurs de cheveux longs, ils avaient même l'interdiction de les couper et même de les laver. Hein. Ça, je dirais que ça ne devait pas être terrible, terrible, hein, surtout quand on s'occupait de sang. Ils ressemblent à des bouchers, hein, les pauvres mecs. Et on comprend que de tels hommes qui portaient des signes astrologiques qui, à mon avis, était impressionnant. Ça, j'aurais bien voulu faire le thème d'un ou deux sacrificateurs aztèques qui avaient de telles tâches. Alors, ils étaient toujours cinq. Hein.
Oui.
Alors, vous savez que cinq, ce n'est pas mon chiffre préféré. Hein.
Non.
Or, et c'est un chiffre néfaste, ça c'est vrai. Mais c'était pour permettre simplement de maintenir le sacrifié. Et puis, il y en avait un sixième qui était là, qui était... le six, c'est la mort, naturellement, qui était là pour exécuter, qui retirait le cœur du thorax à l'aide d'un couteau de silex. Et puis, si on pense à ces croyances surnaturelles, maléfiques, eh bien, c'est vrai que tout ce qui est signe demeure, parce que tous ceux qui vont naître sous le signe de vent devront faire preuve de prudence et éviter finalement de suivre ce que j'appellerais cette tendance possible à la transformation, à la dissimulation. Alors maintenant, je vais vous parler vraiment, c'est la fin là. Il était long, hein, notre petit signe du vent, mais il était intéressant. Vous allez voir qu'on va, on va comprendre comment les gens fonctionnent quand ils sont nés vent. Hein. Mm-hmm. Transformation, dissimulation, mensonge même. Tout au moins une sorte d'occultation de la vérité. C'est très proche de l'idée du vent. Et puis, c'est des gens qui ont un caractère étrangement changeant. Je dirais mobile et en perpétuelle métamorphose. Hein. J'ai toujours eu beaucoup de peine à comprendre comment ces natifs, enfin les natifs de ce signe, étaient dans l'obligation d'éviter de tenter de rechercher pourquoi ils ressentent ce besoin de jouer successivement des rôles différents. J'ai une peine énorme à les attraper comme ça. Hein. Alors on comprend bien que pour avoir étudié ces différentes mythologies du vent, là je vous ai vraiment parlé de toutes les solutions qui tournent autour du vent, eh bien, c'est difficile de cerner quelle est la personnalité profonde et sincère, vraiment la sincérité du porteur de ce signe. Hein. Alors comme j'ai signalé à propos de la coiffe du dieu, il faut comprendre que son bonnet... vous rappelez ce bonnet conique là, noir et rouge, il rappelle en fait la forme des temples qui sont dédiés à Hecatl, dieu du vent. Bah oui, parce que c'était toujours des temples qui étaient ronds. Ils étaient surmontés d'un toit de paille lui-même conique et pointu. Et puis la base de la pyramide était faite à degrés, mais ces degrés étaient toujours ronds et surmontés justement de marches qui montaient vers le temple. Et les étages étaient tous arrondis comme ça et concentriques. C'est le seul exemple de l'architecture qui montre un temple principal où le dieu était placé au centre même de ce qu'on appelle un théocalis, la maison des dieux. Hein. C'est-à-dire qu'on le choisissait exactement dans le centre du tourbillon divin, si je peux dire. Juste devant, par exemple, à Mexico, Tenochtitlan, dans le Templo Mayor, comme on l'appelle, eh bien, il est juste face au temple majeur qui était dédié à Tlaloc, dieu de la pluie, et à Huitzilopochtli, le fameux guerrier ressuscité du sud des Aztèques. Alors, c'est intéressant que là, eh bien, les Aztèques vont... finalement, choisir le Quetzalcoatl, curieusement, qui a dû être la divinité majeure. Hein. C'est pour ça que j'en parle autant ce soir. Je ne le ferai pas tous les jeudis autant pour chaque divinité. Mais c'est Huitzilopochtli, justement. C'est ce nouveau temple aztèque qui a remplacé le pouvoir de Quetzalcoatl. C'est un peu comme si c'était un nouveau dieu tribal qui a poussé Quetzalcoatl de côté. Or, sur la carte des temples, Quetzalcoatl est bel et bien au centre. Hein. Le dieu du vent est toujours au milieu. C'est un peu comme si vous aviez le centre d'une église, le cœur, eh bien, c'est toujours Quetzalcoatl qui reste là. Alors, quand on voit la nature architecturale, je dirais même formative de notre Dieu, en comprenant que c'est... comment dire ça ? C'est donc sous son influence qu'on se rend mieux compte de ce qu'était vraiment chez les gens l'humeur changeante, les énergies qui sont toujours éphémères. Il y a quelque chose qui est sans suite. On a de la peine à s'accrocher, on a de la peine à entendre. Hein. Et les caprices, eh bien, c'est vraiment le reflet de toutes les exigences du Dieu. C'est vraiment... je vais vous donner un petit exemple, hein, si vous voulez bien. Les premiers Espagnols, ils avaient souvent été confondus avec Quetzalcoatl, peut-être à cause de la chevelure de Quetzalcoatl. Oui. Il avait une barbe jaune qui était donc typique de ce dieu. Et peut-être aussi parce que il avait promis de revenir du côté de l'Est, hein, après son sacrifice, une forme messianique. Et on avait remarqué que les Indiens qui traitaient les Espagnols de fils du vent, eh bien, ils le faisaient peut-être aussi à cause du tempérament un peu fantasque, hein, qui les rendait de peu de recours pour les Indiens accueillants. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas comment fonctionnait un Espagnol, hein, qui lui tirait en l'air avec ses bombardes.
C'est différent. Hein.
Il y a vraiment une façon d'attaquer et de fonctionner qui les rendait totalement fantasques. Ceux qui sont nés vent, bien pour moi, c'est des gens qui sont quand même indécis. Je les appellerai un peu inconstants. C'est des gens un peu velléitaires. Et puis, ce qui est certain, c'est qu'ils devraient pouvoir lutter, découvrir la cause de leur manque de confiance. Il y a un manque de confiance en l'avenir qui est très fort chez les gens du vent. Il faudrait continuer à persévérer dans un effort qui est souvent assez difficile. Hein. Et vous vous rappelez, quand je fais certains thèmes, je parle même de la réussite qui n'est pas toujours au rendez-vous. Mais ce qui est curieux, c'est que le fait de subir des échecs chez les gens qui portent le vent, on a l'impression que ça ne les touche pas du tout.
Ça ne les fait pas avancer.
Ils ne bougent pas une oreille. Ils paraissent totalement indifférents à tous les revers de fortune. Et ils sont pourtant assez faciles, hein, je dirais, dans les discussions, dans la façon de se comporter avec autrui. Mais ils préfèrent transformer une situation plutôt que de la dramatiser. Oui. Hein, c'est assez curieux. Et parfois, ils agacent leurs partenaires et les gens qui sont autour d'eux par ce manque d'inquiétude et par leur façon incroyablement facile d'éviter. Ils évitent les discussions, les obstacles de tout ce qui est sur la route. Alors, je dirais que Oui, finalement, les gens du vent sont insensibles au coup du sort.
Hein. Oui.
Et s'ils sont inconstants, ben, c'est qu'ils savent trouver en fait une compensation par quelque chose qui est très propre au vent aussi, qui m'a toujours étonné, c'est leur extrême souplesse. Hein. Mais il y a une statue, par exemple, au musée d'anthropologie, qui représente un tourbillon de vent sous la forme d'une sculpture d'un singe qui est vrillé sur lui-même. Vous savez, il a les deux jambes vrillées et il porte le masque du dieu du vent, que vous connaissez, avec cette espèce d'appendice buccal étrange, et sa queue imite le mouvement du tourbillon. Vous voyez le truc qui tourne comme ça, c'est assez impressionnant. Eh bien, il est esthétiquement semblable à une de ces... qu'est-ce que je vais dire ? Ça ressemble à ces étranges, ces tornades légères de sable qui montent soudain, spontanément. Vous avez déjà vu ces tourbillons de sable qui se mettent spontanément en route là, à l'horizon de ces plateaux désertiques de la région de Mexico. C'est l'image de l'inconstance.
Oui.
On ne sait pas d'où ça sort. Il y a la mobilité, l'adaptabilité, le manque de prise sur la réalité. Ça, je parle vraiment du porteur du signe. Hein.
Mm-hmm.
Et finalement, on peut se demander si le vent a des qualités ou si finalement ces qualités ne finissent pas par devenir des défauts. Je veux dire.
Ouais.
On a vraiment les deux, c'est très étrange.
Mm-hmm.
Hein.
Mm-hmm.
Et il y a un symbole qui est porté par le dieu qui est à l'image de cette partie un peu énigmatique, je dirais. Le vent, il porte des boucles d'oreilles en forme de coquillage. Il a même un pendentif qui est fait d'une conque, qui est découpée pour faire voir sa forme intérieure.
Mm-hmm.
Il y a une spirale, certes, mais qui est absolument parfaite, mais qui rappelle que le vent a fini par devenir tourbillon, tornade, et que finalement, c'est sous la forme d'ouragan qu'il a détruit tout sur son passage.
Mm-hmm.
Donc, il balaye la dernière création dont il ne restait que les singes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont agités, qui sont inconstants, et qui sont accrochés aux arbres et qui sont pliés sous, je sais pas, ces arbres qui sont complètement penchés, abîmés sous le cyclone tempétueux. Et oui, c'est un peu comme ça que se termine notre dernier soleil de vent. vous avez mieux appris ce qu'était le vent.
Ah oui,
ça
vous a paru un peu, bien sûr.
C'est une mythologie un peu complexe.
Très bien. Oui, mais c'était bien. Je pense que ça vaut la peine de l'expliquer et puis d'en faire une par semaine.